Chapitre 18. Panthésilée, chevauchant vers Achille, savait sans l'ombre d'un doute que toute sa vie avant ce jour, jusqu'à la dernière des heures, jusqu'à la dernière des minutes, n'était qu'un prélude à la gloire qui serait bientôt sienne. Tout ce qu'elle avait pu accomplir jusqu'ici, des séances d'entraînement les plus pénibles aux combats les plus gratifiants ou les plus déchirants, n'était que simple préparation. Durant les heures à venir, elle allait affronter son destin. Soit elle triompherait d'Achille, le condamnant à périr, soit ce serait elle qui mourrait, se voyant, sort infamant, condamnée à la honte et à l'oubli pour l'éternité. L'Amazone Panthésilée n'avait aucune intention de subir un sort infamant. En émergeant de sa sieste dans le palais de Priam, elle s'était sentie forte et heureuse. Elle s'était accordé un bon bain, et plus tard, en s'habillant, face au miroir de métal poli dont était pourvu son logis, elle avait pris soin de son visage et de son corps comme elle le faisait rarement, sinon jamais. Panthésilée savait qu'elle correspondait au canon de la beauté tel que les édictaient les hommes, les femmes et les dieux. Elle s'en souciait comme d'une guigne. Cela importait peu à son âme de guerrière. Mais ce jour-là, tandis qu'elle endossait lentement ses habits propres et son armure étincelante, elle prit le temps d'admirer sa propre beauté. Après tout, songea-t-elle, ce serait la dernière chose que verrait Achille, le tueur d'hommes aux pieds rapides. Âgée d'une vingtaine d'années, l'Amazone avait un visage de femme-enfant et de grands yeux verts qui semblaient plus grands encore lorsqu'ils s'encadraient dans ses boucles blondes. Si ses lèvres fermes ne souriaient que rarement, elle n'en était pas moins pleine et rose. Le corps qui se reflétait sur le métal poli était musclé et bronzé par des heures passées à nager, à combattre et à chasser au soleil, mais il n'était nullement décharné. Elle avait les hanches larges d'une vraie femme, mais aussi un derrière un peu trop gros, ce qu'elle remarqua avec une moue réprobatrice en bouclant sa ceinture d'argent sur sa taille de guêpe. Les seins de Panthésilée étaient plus ronds et plus fermes que ceux de bien des femmes, y compris parmi ses camarades amazones, et leurs mamelons étaient roses plutôt que marrons. Elle était toujours vierge et avait l'intention de le rester jusqu'à la fin de ses jours. Sa sœur aînée, elle grimaça en repensant à la mort d'Hippolyté, s'était certes laissée séduire par les ruses d'un homme velu qu'il avait enlevé pour en faire une reproductrice, mais jamais elle ne ferait ce choix. Tout en s'habillant, Panthésilée attrapa un petit flacon d'argent en forme de grenade et en fit couler un baume magique et parfumé dont elle soignit la poitrine au niveau du cœur, puis le ventre au-dessus du duvet doré qui montait de son sexe. Telles étaient les instructions de la déesse Aphrodite qui lui était apparue le lendemain du jour où Pallas Athénée lui avait confié sa mission. Aphrodite lui avait assuré qu'elle avait concocté ce parfum, encore plus puissant que l'ambroisie, à seule fin de subjuguer le seul Achille, qui ne pourrait manquer de succomber au désir. Panthésilée disposait donc de deux armes secrètes. La javeline que lui avait donnée Athénée, une arme qui ne ratait jamais sa cible, et le charme d'Aphrodite. Elle avait l'intention de porter à Achille un coup mortel pendant que le tueur d'hommes serait paralysé par le désir. L'une de ses camarades, sans doute Clonia, sa fidèle capitaine, avait briqué son armure royale avant de s'endormir, et l'or et le bronze étincelaient dans le miroir métallique. Les armes de Panthésilée étaient à portée de main, son arc et son carquois, emplis de flèches bien droites à lampaine rouge, son épée, plus courte que celle d'un homme, mais parfaitement équilibrée et tout aussi meurtrière en combat rapproché, et sa hache à deux fers, l'arme de prédilection des Amazones en temps ordinaire. Mais pas aujourd'hui. Elle soupesa la lance qu'Athénée lui avait donnée. On aurait dit qu'elle ne pesait rien, qu'elle volait déjà vers sa cible. Sa longue pointe barbelée n'était pas en bronze ni même en fer, mais en quelque métal forgé sur Olympos. Un métal que rien ne pouvait ternir, que nulle armure ne pouvait arrêter. Cette pointe était trempée dans le poison le plus meurtrier que connaissaient les dieux. Il suffirait qu'elle pique le talon mortel d'Achille pour que le poison se diffuse jusque dans son cœur, paralysant le héros en quelques secondes, l'envoyant dans l'Hadès en quelques instants. Le métal bourdonnait dans la main de Panthésilée. cette arme était aussi impatiente qu'elle de meurtrir la chair d'Achille et de le terrasser, d'emplir ses yeux, sa bouche et ses poumons de la noirceur de la mort. Sur le ton de la confidence, Athénée avait raconté à Penthésilée l'origine de l'invulnérabilité d'Achille. Souhaitant rendre son bébé immortel, Thétis l'avait plongé dans le feu céleste dont Pélée l'avait arraché avant qu'il ait pu achever son œuvre. « Le talon d'Achille est mortel », avait murmuré Athénée. « Son ensemble de probabilités quantiques n'a pas été altéré. » Penthésilée n'avait rien compris à ce discours, hormis qu'elle allait tuer Achille, le tueur d'hommes, qui se doublait d'un tueur de femmes, et même d'un violeur. Pendant que les Achéens se reposaient sur leurs lauriers et sur leurs culs, Achille et ses brutes de Myrmidon avaient conquis près d'une vingtaine de cités sur la côte, infligeant les derniers outrages à leur population féminine. Quoique la terre des Amazones fût fort lointaine, la jeune Penthésilée savait qu'il y avait en fait deux guerres de Troie. Le siège d'Ilium, une succession de combats acharnés suivis de longues périodes de repos et de festins, et les raids destructeurs menés par Achille, qui ravageaient l'Asie mineure depuis une décennie. 17 villes avaient succombé à ses assauts.
Mais c'est aujourd'hui son tour.
La cité que traversèrent Penthésilée et ses camarades était envahie par la panique et la confusion. À en croire les crieurs postés sur les remparts, les Achéens se rassemblaient derrière Agamemnon et ses capitaines. Comme Hector se reposait et qu'Énée se trouvait au front des troupes, de l'autre côté du trou, les Grecs allaient frapper la ville par traîtrise. Penthésilée remarqua des femmes errant dans les rues, vêtues d'armures dépareillées, comme si elles jouaient aux Amazones. Et voilà que les sentinelles sonnaient le cor. Voilà que les portes C se refermaient derrière Penthésilée et ses guerrières. Sans prêter attention aux soldats troyens qui se mettaient en formation sur la plaine, entre les remparts de la cité et les campements achéens, Penthésilée chevaucha vers l'est, vers le trou gigantesque. Elle avait aperçu celui-ci lors de son arrivée, mais son cœur battit quand même avec plus de force. Haut de plus de 200 pieds, le trou découpait dans le ciel hivernal un cercle parfait, dont le quart inférieur disparaissait dans le sol rocheux à l'est de la ville. Depuis le nord et l'est, ainsi qu'elle avait pu le constater lors de son arrivée, il était absolument invisible. On ne voyait qu'Ilium et la mer, sans aucun signe de sorcellerie dans le paysage. Le trou ne se manifestait que si l'on approchait par le sud-ouest. Achéens et Troyens, divisés en deux colonnes distinctes mais pas encore antagonistes, sortaient précipitamment du trou, à pied ou en char, comme obéissant à un ordre d'évacuation. Ils avaient dû recevoir des instructions de leurs commandements respectifs, se dit Penthésilée, et renonçaient à défier les dieux pour se préparer à reprendre leur ancien conflit. Cela n'avait aucune importance à ses yeux. Penthésilée devait tuer Achille, et malheur à l'Achéen ou aux Troyens, qui commettraient l'erreur de se trouver sur son chemin. Elle avait déjà envoyé dans l'Hadès des légions de guerriers, et elle était prête à recommencer si nécessaire. Elle retint son souffle en menant ses deux colonnes d'Amazones à travers le trou, mais lorsqu'elle émergea de l'autre côté, elle n'éprouva qu'une vague sensation de légèreté, ainsi qu'un bref éblouissement et quelques difficultés à respirer, lorsqu'elle pensa à reprendre son souffle, comme si elle s'était retrouvée au sommet d'une montagne. Son cheval, également sensible à ses subtiles altérations, se mit à renacler, mais elle eut vite fait de le maîtriser. Elle ne pouvait détacher ses yeux d'Olympos. La montagne emplissait l'horizon à l'ouest. Non, elle emplissait le monde. Non, elle était le monde. Droit devant, par-delà les petits groupes d'hommes et de morts avec, plus les quelques cadavres qui jonchaient le sol rouge et qu'elle ne voyait pas, n'ayant désormais qu'indifférence pour tout ce qui n'était pas Olympos, se dressaient des falaises verticales hautes de plusieurs dizaines de stades, le socle de la demeure des dieux, et au-dessus d'elle, cette montagne dont les flancs ne cessaient de monter et de monter encore. « Ma reine ?» Penthésilée entendit une voix, la reconnut au bout d'un temps comme étant celle de Brémusa, la plus haut gradée de son peloton après la fidèle Clonia, mais ne lui prêta pas plus d'attention qu'à l'océan limpide qui s'étendait à leur droite ou aux grandes têtes de pierre qui embordaient le rivage. Tout cela ne signifiait rien comparé à l'incommensurable réalité d'Olympos. Penthésilée se redressa sur sa selle élégante pour suivre les contours de la montagne, qui s'élevait de plus en plus haut encore que le ciel d'azur,
Ma reine!
Penthésilée se tourna vers Brémusa, bien décidée à la réprimander, mais s'aperçut que toutes ses guerrières avaient fait halte derrière elle. La reine des Amazones s'ébroua, comme pour achever de sortir d'un rêve, et fit demi-tour pour les rejoindre. Pendant qu'elle s'abandonnait à sa fascination pour Olympos, les Amazones avaient croisé des femmes égarées de ce côté du trou. Des femmes qui pleuraient, hurlaient, saignaient, couraient, chancelaient, tombaient. Clonia avait mis pied à terre pour s'agenouiller près de l'une d'elles, lui calant la tête sur ses cuisses. Cette femme semblait vêtue d'une étrange robe écarlate.
« Qui ?»
demanda Penthésilée, baissant les yeux vers la malheureuse qui lui semblait effroyablement lointaine. Elle vit alors que la route qu'elles avaient suivie était jonchée de plaques d'armure abandonnées.
« Les Achéens !»
murmura la mourante.
« Achille !»
Si elle avait endossé une armure, cela ne lui avait servi à rien. On lui avait tranché les seins. Elle était presque nue. Ce n'était pas une robe qui recouvrait sa peau, mais une couche de son propre sang.
« Emmenez-la !»
Penthésilée n'acheva pas sa phrase. La femme était morte. Clonia remonta en selle et reprit sa place à droite de Penthésilée, un peu en arrière. La reine sentit la rage qui émanait de sa camarade aussi ardente qu'un feu de joie.
« En avant !»
Elle lança son destrier. Sa hache était fixée au pommeau de sa selle. Sa main droite tenait la lance d'Athénée. Ce fut au galop qu'elles se dirigèrent vers le petit groupe d'hommes. Les Achéens se penchaient sur des cadavres, sans doute pour les dépouiller. Leur rire gras résonnait dans l'air ténu. Une quarantaine de femmes avaient péri ici. Penthésilée ralentit l'allure, mais les deux colonnes d'Amazones durent se disperser. Un cheval, même entraîné à la guerre, n'aime pas piétiner un cadavre, et ceux-ci, des cadavres de femmes sans exception, étaient si proches les uns des autres que les destriers avançaient avec un luxe de précaution, posant leurs sabots sur le sol entre les membres tordus et les crânes fracassés. Les Achéens cessèrent de dépouiller et de peloter leur proie. Penthésilée estima leur nombre à une centaine, mais elle ne reconnut personne parmi eux. Aucun des grands héros grecs ne s'était mêlé à cette racaille. À deux ou trois stades de là, un groupe d'hommes à l'allure plus noble regagnait le gros de l'armée achéenne.
« Vivez-moi ça ! Encore des femmes !» dit le plus crasseux des charognards à deux pattes. « Et cette fois-ci, elles nous ont apporté des chevaux !»«
Quel est ton nom ?»
demanda Penthésilée. L'homme sourit, révélant une denture en piètre état.
« Je m'appelle Molion, et j'hésite. Dois-je commencer par te violer ou par te tuer ?»«
Décision difficile pour un esprit aussi limité que le tien, »
répondit posément Penthésilée.
« J'ai jadis rencontré un Molion, mais c'était un Troyen, l'écuyer de Timbré. Et puis c'était un homme bien vivant, alors que tu n'es qu'un chien crevé. »
Poussant un grondement, Molion dégaina son épée. Sans daigner mettre pied à terre, Penthésilée le décapita d'un coup de hache. Puis elle frappa les flancs de son cheval et trois hommes périrent piétinés avant d'avoir eu le temps de lever leurs boucliers. Poussant un cri à glacer les sangs, ses 12 Amazones se jetèrent dans la mêlée à ses côtés, écrasant les Achéens quand elles ne les massacraient pas à la hache ou à l'épée, pareilles à des moissonneuses maniant la faux. Les hommes qui résistaient périrent. Ceux qui fuyaient aussi. Penthésilée tua les 7 qui étaient occupés à dépouiller les cadavres avec Molion et ses 3 premières victimes. Ses camarades Ewandra et Thermodoa se préparaient à achever le dernier Achéen, un soudard particulièrement laid qui, entre 2 suppliques géniardes, déclara s'appeler Tersite. Mais Penthésilée, à leur grande surprise, leur ordonna de le laisser partir.
« Porte ce message à Achille, à Diomède, aux 2 Ajax, à Odysseus, à Idoménée et aux autres héros que je vois sur cette crête en train de nous observer, »
donna-t-elle.
« Dis-leur que moi, Penthésilée, reine des Amazones, fille d'Arès, bien-aimée d'Athénée et d'Aphrodite, je suis venue mettre fin à la misérable vie d'Achille. Dis-leur que je suis prête à l'affronter en combat singulier s'il en est d'accord, mais que mes Amazones et moi sommes résolus à les tuer tous s'ils nous résistent.
Tersite, le contrefait, s'en fut aussi vite que le lui permettaient ses jambes flageolantes. Le bras droit de Penthésilée, la peu avenante mais courageuse Clonia, s'approcha d'elle.
« Que dis-tu là, ma reine? Nous ne pouvons affronter tous les héros achéens. Chacun d'eux est déjà une légende. Ensemble, ils sont invincibles, et jamais 13 Amazones ne pourront les conquérir. Sois calme et décidée, ô ma sœur, »
répliqua Penthésilée.
« Notre victoire dépend de la volonté des dieux. tout autant que de la force de nos bras. Une fois à Chiloxi, les autres Achéens fuiront, tout comme ils ont fui devant Hector et les Troyens lorsque leur chef moins prestigieux tombait devant eux. Et à ce moment-là, nous chevaucherons à bride abattue, franchirons à nouveau ce trou maudit des dieux et brûlerons leurs nefs avant que ces prétendus héros aient repris leurs esprits. « Nous te suivrons dans la mort, ô ma reine !»
murmura Clonia.
« Tout comme nous t'avons jadis suivi dans la gloire. »« C'est encore la gloire qui nous attend, ma sœur bien-aimée. »« Regarde, cette face de rat de Tercite a transmis notre message, et les capitaines achéens se dirigent vers nous. Vois comme l'armure d'Achille brille plus que les autres. Allons à leur rencontre sur ce champ de bataille dégagé qui s'offre à nous. »
Elle talonna son cheval massif, et les 13 Amazones foncèrent au galop vers Achille et les Achéens.
« C'est encore la gloire qui nous attend, ma sœur bien-aimée. Cette face de rat de Tercite a transmis notre message, et les capitaines Achéens se dirigent vers nous. Vois comme l'armure d'Achille brille plus que les autres. Allons à leur rencontre sur ce champ de bataille dégagé qui s'offre à nous. »
Elle talonna son cheval massif, et les 13 Amazones foncèrent au galop vers Achille et les Achéens.